Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Le pays des cigognes a été le point de départ d'un envol médiatique sur des plateaux qui vous ont permis d'atteindre les sommets du bonheur à la ville, mais aussi à la scène, l'un de vos rêves. Bonjour Nathalie Marquet-Pernot.
Bonjour.
Eh bien, vous êtes à l'affiche actuellement au gymnase, on en parlera avec Double Jeu.
Avec plaisir.
Mais vous avez un parcours aussi totalement atypique. Et le principe des clés d'une vie chaque jour sur Sud Radio, c'est de raconter ce parcours à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 26 décembre 1986.
Ah.
Ça vous dit quelque chose?
Je pense.
C'est pas encore l'élection. Vous êtes à l'hôtel de ville. C'est un reportage, première télévision, sur France 3 Île-de-France, à l'hôtel de ville, dans les salons, et sur le parvis d'hôtel de ville en costume folklorique.
Folklorique.
Ça vous dit quelque chose?
Je me souviens plus, mais ça c'est voit, sûr qu'on a dû me voir. Oui.
On vous voit, il y a 4-5 miss et qui disent bah, moi je rêve de continuer à travailler, je rêve de faire des tas de choses, je rêve de faire des photos. Et vous le dites, mais toute timide.
Oui, j'étais extrêmement timide. Ben, c'est normal, j'ai vécu donc en province, en Alsace. Donc, arrivée sur Paris, je connaissais rien. Rencontrer aussi Madame de Fontenay, c'était pas rien non plus.
Et puis elle était autoritaire, on voit, mettez-vous là, etc. Et l'hôtel de ville, ça vous a surpris, cette première visite de l'hôtel de ville?
Ah ben oui, c'était magnifique. J'avais jamais vu ça. Quoi, donc, en plus, j'avais jamais pris l'avion, donc aller jusqu'à là-bas et voir l'hôtel de ville, oui, c'est...
Et il y a un secret de l'hôtel de ville qu'on a percé récemment. En fait, quand Jacques Chirac était maire de Paris, il y avait un placard. On ouvrait ce placard, il y avait un passage secret qui menait directement à son appartement au-dessus pour être tranquille.
Oh mince, je ne l'ai pas trouvé.
Non, personne ne l'a trouvé, il a été supprimé, mais on a appris l'existence de ce passage secret voici quelques semaines à peine.
Ah bah merci de me le dire.
Alors, vous retournez quelques jours plus tard après votre victoire à Blosheim. Et là aussi,
Blosheim.
Et là aussi, c'est un moment d'émotion parce que vous êtes devant la mairie avec tous les officiels. Et la ville.
Oui, mais surtout, c'était de retrouver mes parents aussi.
Voilà.
Parce qu'ils n'ont pas pu venir à l'émission. Et serrer mes parents dans mes bras, mes parents tellement fiers. Notre petite Nathalie élue Miss France, on n'aurait jamais cru. Et puis, un accueil extrêmement chaleureux avec les Alsaciens. Et je ne les remercierai jamais assez, parce que c'est grâce à eux que j'ai été élue Miss France. Parce que moi, j'avais quand même une préférence pour la Miss Réunion, qui était très, très, très jolie. Et heureusement que les Alsaciens étaient très chauvins. Ils ont téléphoné.
Alors, il faut savoir que cette élection, c'était la première fois que c'était à la télévision sur France 3. Ce n'était pas du tout l'élection d'aujourd'hui.
Ah non, ça n'a rien à voir. C'était avec Guy Lux, notre ami Guy Lux. Et tout d'abord, il y avait une présélection dans un hôtel.
Oui.
Donc, on n'était que les 10 finalistes à participer à l'élection en direct sur France 3 à l'époque. Et c'est vrai que ça a été un peu un cafouillage parce qu'ils n'avaient pas l'habitude. Et puis, il y avait une sorte de jury comme là, on a sur une table.
Oui.
Et puis nous, on défilait presque sur une table. Quoi. C'était un peu lamentable. Et puis, ils votaient. Enfin, déjà, c'était pour le 31 décembre. Donc, ils avaient pas mal picolé, le jury.
Oui.
Ça m'a arrangé d'ailleurs. Et puis, ils votaient avec une rose. Par contre, il y avait le public déjà qui pouvait téléphoner et ils ne pensaient pas à un tel engouement parce que les gens qui étaient chez eux dans leur province, ils téléphonaient, ça explosait les standards. Et donc, ils ont été très, très surpris. Et d'ailleurs, pour quand il y a eu le résultat, ça a été un cafouillage.
Oui, alors il faut savoir qu'au départ, Guy Lux avait eu cette idée. Il faut lui reconnaître.
Très, très bonne idée.
Et ça s'appelait
un génie,
Guy Lux. D'ailleurs, il avait des règlements de concours. Il expliquait le règlement, personne n'y comprenait rien.
Oui.
Alors il demandait à une de ses collaboratrices d'expliquer. Elle n'avait rien compris non plus, mais ça marchait quand même.
Ça marchait très, très bien.
Et donc, l'émission s'appelait, je crois, C'est déjà demain, parce que c'était pour l'an 2000.
Oui.
Et il fait ce concours. Et donc, je crois que c'est une certaine Céleste qui se trompe complètement dans le classement à la fin.
Ah, mais ça a été une catastrophe. Parce qu'il avait mélangé la cinquième dauphine, il comptait tout de suite quatrième, troisième, je ne sais plus comment c'était passé.
Ouais.
Et puis moi, j'ai une petite anecdote qui est très marrante quand même, parce que en attendant, nous on était derrière, parce qu'on n'était pas sur le plateau. Ce n'est pas comme maintenant où elles sont toutes sur le plateau. Donc il appelait la quatrième dauphine, troisième, deuxième, première. Et je restais juste derrière avec Miss Réunion. Et puis là, je la regarde, je fais oh, c'est moi, Miss France. Elle me dit, mais pourquoi tu me dis ça? Je dis, parce qu'il y a une voyante qui m'en a parlé. Et maintenant, ça me fait tilt. Elle m'a dit, je serai la plus jolie fille de France. Et j'ai commencé à trembler, à avoir peur. Je fais, mon Dieu, mais comment je vais faire ça? Comment je vais assumer? Et j'étais persuadée. quand j'étais derrière. Et voilà, et j'ai été élue Miss France.
Voilà, il y a eu des applaudissements, mais aussi des sifflets à cause de la pagaille qui régnait.
Beaucoup, beaucoup de... Oh, j'étais gênée. je peux les comprendre, parce que quand on était sur le plateau, moi je vous dis que Miss Réunion était extrêmement jolie. Mais quand je me suis renseignée après sur les votes, j'avais 2000 voix de différence par rapport à Miss Réunion.
Oui.
Merci les Alsaciens.
Voilà. Et d'ailleurs, vous avez même découpé ensuite la première part du gâteau, ce qui ne se fait plus aujourd'hui.
Oui, oui, avec... c'était avec qui? Avec Guy Lux.
Avec Guy Lux,
oui,
oui.
Oui, on a coupé. Mais j'ai même partagé mon bouquet de fleurs, hein, pour tout vous dire. Hein.
Oui.
Parce que c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas tous les cadeaux qu'elles ont maintenant. Et j'étais tellement triste pour ma première dauphine qui n'avait même pas un bouquet de fleurs. Je lui ai partagé mon bouquet de fleurs.
Alors, votre naissance, c'est à Wittenheim, je crois, près de...
Non. Alors, je suis née dans le Nord,
oui,
à Lille.
Juste à côté de Lille, à Comines.
À Comines, oui. Exactement.
Où Maurice Schumann, d'ailleurs, a été conseiller municipal en tant que ministre des Affaires étrangères aussi.
Eh oui, eh oui. Et je suis née juste avant la frontière belge.
Oui.
Donc voilà.
Comme Raymond Devos, un peu plus loin.
Excellent. Et à l'âge de 5 ans, je suis partie en Alsace parce que mes parents cherchaient du travail. Et donc après, j'ai habité, oui, à Wittenheim jusqu'à mes 20 ans.
Voilà. Et il y a aussi un voisin célèbre de Wittenheim qui était le fils d'un boulanger, qui était Pierre Hermé, et qui a débuté là et qui ensuite a fait la carrière que l'on connaît.
Qu'on adore.
En tout cas, on vous adore aussi. Il y a encore plein de choses à raconter sur vous à travers une autre date, le 8 décembre 2001. Tout de suite sur Sud Radio avec Nathalie Marquet.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invitée Nathalie Marquet-Pernaud. Alors, il y a cette pièce double jeu au gymnase dont on va parler tout à l'heure, mais il y a une date importante dans votre vie, vous ne l'avez pas oublié, j'en suis certain, c'est le 8 décembre 2001.
Oh là là, quelle belle journée, magnifique. L'élection de Sylvie Tellier et ma rencontre avec Jean-Pierre.
C'est-à-dire qu'effectivement, vous étiez depuis quelques années membre du jury,
oui,
et vous assistiez au concours Miss France.
Exactement. Sauf que là, j'étais pas membre du jury à cette année-là. Mais je m'occupais pas mal des filles, des candidates. Et puis, Madame de Fontenay me dit « Écoute, je vais t'installer à côté de mon présentateur préféré, Jean-Pierre Pernaud. » Et moi, sur le coup, j'ai dit « Mais c'est qui ?» Je suis désolée. Et oui, parce que j'ai pas mal vécu aussi dans les îles. Donc le 13h, je ne le regardais pas. D'ailleurs, à cause de vous, je suis en train de rater le 13h.
Je suis désolée. Il y a des replays.
Oui, bien sûr. Non. Mais ce qui était marrant, c'est que je suis arrivée. Madame de Fontenay m'a dit « Bon, tu seras installée à côté de Jean-Pierre Pernaud. » Donc après, bien sûr, j'ai regardé qui c'était. Et elle me dit « Donc voilà, vous avez votre place juste derrière le jury. » Ok. Et puis, j'arrive juste avant que l'émission commence. Donc, je passe sur le plateau. Et je sais que Jean-Pierre, il a été subjugué parce que j'avais une magnifique robe un peu transparente, blanche, très collée sur la peau. Mais je vois une jeune fille assise à côté de Jean-Pierre. Et là, je lui ai dit « Excusez-moi, mais c'est ma place, alors vous allez devoir partir. »« Ah mais non, Mamila. » Je fais « Ah non, 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 vous partez. » Et je me suis installée à côté de lui. Et ce qui est très marrant, c'est qu'on n'a pratiquement pas suivi l'élection. On n'a fait que se parler, que rire. Et c'était impressionnant. Et le courant a passé tout de suite.
C'est étonnant, c'est le coup de foudre total.
Ah oui, oui, c'est une magie. La magie qui est passée. Et d'ailleurs, plein d'amis... de moi et de Jean-Pierre, le lendemain, dis donc, t'avais une complicité avec Jean-Pierre Pernaud, il y a quelque chose. Et du côté de Jean-Pierre, c'était pareil. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est magnifique, mais qu'est-ce qui se passe entre vous? Donc on gardait un petit peu notre jardin secret au démarrage. Et puis voilà, notre belle histoire est née.
Voilà, avec deux enfants,
oui,
et Lou et Tom.
Exactement.
Qui sont votre fierté.
Grande fierté.
Un mariage quelques années plus tard.
Oui, oui, ça a été très très vite. Les fiançailles ont été encore... plus rapide, parce qu'on s'est fiancés, on s'est connus en décembre et on s'est fiancés le 22 février.
Ah oui, ça va vite.
Vous vous rendez compte ?
Oui.
Et en mars, j'étais enceinte.
Voilà.
Là, très vite.
Alors, Madame de Fontenay a été le témoin de tout ça. Il faut savoir que Geneviève de Fontenay, à l'époque, suivait ses misses. Moi, j'ai un souvenir de vous, dans un avion, où Madame de Fontenay m'a présenté à vous, car elle était toujours avec vous, à vos côtés, en avion.
Tout le temps. Elle avait très, très peur de l'avion. À l'époque, moi, non. Mais maintenant, oui, je suis terrifiée. Et oui, elle me suivait partout. D'ailleurs, ce qui est bien, ce que je trouve, ce que fait Sylvie Tellier, c'est qu'elle met toujours en avant ses misses. avec le prénom. Parce qu'à notre époque, c'était Miss France 87.
Oui.
Et c'est vrai que des fois, il y a des gens qui ne savaient même pas comment on s'appelait. Et Madame de Fontenay était toujours en avant et après la Miss France. Bon, elle les accompagnait, bien sûr, ce qui me rassurait, hein, par contre. Hein. Mais maintenant, je trouve que c'est très bien, comme elle fait Sylvie Tellier, de mettre toujours en avant la Miss France avec le prénom et... Je trouve ça bien.
Car vous continuez à suivre Miss France.
Oui, je suis très très amie avec Sylvie Tellier. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai rencontré Jean-Pierre pendant son élection et toutes les deux, on s'est mariées le même jour quand même.
C'est extraordinaire. Mm. Alors, cette vie de famille, justement, avec Jean-Pierre Pernaut, vous a médiatisé. En même temps, vous gardez votre jardin secret. C'est très important pour vous.
Ah ben, c'est primordial parce que vivons cachés, vivons heureux. Même s'il y a pas mal de presse qui sont toujours derrière nous, mais bon, heureusement que moi j'arrive à faire la part des choses et je vois toujours ce qui est le plus important, c'est la famille. Et oui, médiatiser, c'était le roi du JT avec une Miss France, voilà, c'était mignon.
Voilà. Mais en même temps, il faut éviter les rumeurs, les faux bruits. Alors, en plus, il est journaliste, donc il sait ce que c'est que les faux bruits.
Ah oui, bien sûr, et heureusement, parce qu'on a eu on a eu une galère pendant une année, justement, où j'ai été envahie de paparazzi et de fausses presses qui ont essayé de nous détruire. Et heureusement qu'on est forts tous les deux et qu'il sait très bien ce qui se passe par derrière et que tout ça a été faux, toutes ces rumeurs sont fausses.
Oui, alors en plus, bon, il faut revenir sur votre parcours, Nathalie Marquet-Pernaut, parce que en fait, il y a eu Miss France, oui. Mais il n'y a pas eu que ça. Vous avez été candidate à Miss Monde, vous étiez sixième dauphine.
Oui, sixième dauphine.
C'est un record.
Extraordinaire, parce que à l'époque, déjà Madame de Fontenay, quand elle m'a dit bon, vous allez partir pour faire Miss Monde, mais ne vous attendez pas à gagner, ni d'être dans les finalistes. Je dis non, mais moi ce qui est génial, c'est déjà qu'on fait un beau voyage, on rencontre d'autres Miss. Et c'est vrai que c'était à Londres, donc on était à l'époque 112 filles. Qui représentait tous les pays.
C'était au Royal Albert Hall de Londres.
Exactement, merci. Cherchez le nom, je ne me souvenais plus. Avec la vieillesse, je perds la mémoire.
Pas au théâtre, en tout cas.
Ah non, heureusement. Et donc, il devait appeler les 12 finalistes. Et au moment, il m'appelle Miss French, et je ne bouge pas. Et il y a un grand silence, il y a Miss Finland qui est à côté, elle fait pssst, pssst. Je fais, qu'est-ce qu'il y a? C'est à toi. Je fais, quoi? C'était toi, ils t'ont appelé. Et là, je dis Miss France, Miss French. Ah, je fais, oula, mon cœur, il s'est mis à palpiter. Mais c'était incroyable et tellement fière pour la France. Et à mes parents, j'ai pensé aussi, parce que maintenant, c'est vrai que c'est complètement différent, parce que maintenant, ils sont obligés de mettre 4 filles de l'Europe. Oui. Donc, elles ont beaucoup plus de chance. Il y a moins de politique, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de politique. Donc, je sais qu'à l'époque, j'avais eu la 4e meilleure note en maillot de bain. Bon, ça a changé maintenant. Mais quand j'avais 20 ans, 4e meilleure note, donc c'est ça qui a donné beaucoup de points pour Miss Monde.
Oui, alors il y a eu Miss Univers, là, vous n'avez pas été classée.
Non, j'ai été dans le 12e, je pense, il me semblait.
Mais Miss Univers, c'est un concours étonnant, parce que la première couronne du concours dans l'histoire de Miss Univers, c'était la couronne impériale utilisée pour la noce des Romanov en Russie, le tsar de Russie, qui a été posée sur la tête d'une finlandaise. Elle était composée de 1535 diamants.
Oh, c'est fou. Oh là là, devait être lourd.
C'était très lourd. Alors, il y a eu aussi l'élection de Miss Internationale.
Oui.
Ça, c'était autre chose encore.
Encore autre chose, oui. Oh, ça remonte loin. Hein. Ouh là là.
C'est au Japon, je crois. À Gifu.
Oui.
C'était quoi ce concours? Parce
que je crois que j'ai été dans les 10 finalistes.
Hein. Ah oui, exactement. Oui, aussi.
Voilà, c'était.
Vous avez été
loin,
demi-finaliste.
Oui, mais c'est tellement loin, je me souviens même plus. Pardon. Ouais. Alors, je vais vous raconter un petit truc à part. C'est que moi, comme je suis tombée malade, j'ai eu de la chimiothérapie très très forte. Et malheureusement, j'ai des parties de ma vie qui se sont effacées. Donc, excusez-moi si je ne me souviens plus, par exemple, par rapport à ça.
Je suis là pour vous le rappeler.
Merci, merci infiniment.
Alors, ce qui est étonnant, c'est vrai que vous avez été malade, mais vous avez une énergie incroyable, notamment dans le sport. Vous faites de la plongée et du saut à l'élastique.
Oui. Moi, j'adore tout ce qui est à sensation. J'ai besoin de sensations. Et c'est vrai que j'ai fait le saut à l'élastique... le saut normal, après j'ai fait juste accroché à une jambe, je suis un peu assez folle pour faire ça. Ce qui m'a aidée pour faire pour une association dans Fort Boyard, et Jean-Pierre était terrifié pour moi, et à l'époque j'avais fait le plus beau saut et le plus rapide, parce que j'ai dû faire le saut à l'élastique, donc pas de problème, je saute.
Et le saut à l'élastique, on ne le sait pas du tout, mais ça vient d'un rituel au Pacifique, où on s'est lancé dans le vide d'une tour de bambou, pour devenir adulte. Et il y a un Néo-Zélandais qui a repéré ça, qui a créé un cordon élastique très important en 87 et qui a lancé le saut à l'élastique depuis la Tour Eiffel.
Oui, ah oui.
Ça il a été en prison quelques jours pour ça.
Bah oui.
Et depuis, ça s'est arrangé.
Il y a plus fou que moi.
Et il y a le sport automobile aussi, passion que vous partagez avec Jean-Pierre Pernaut.
Avec Jean-Pierre, avec son fils, avec, plus maintenant son père, mais le père de Jean-Pierre aussi, qui adorait ça, son grand-père. Et maintenant, j'ai mon fils aussi, de 16 ans, qui fait des exploits extraordinaires. Mon fils a eu une chance de pouvoir participer au Trophée Andros.
Sur glace,
grâce à ma meilleure amie Muriel Belgi, qui connaît bien Max Mamers. Et donc, il n'avait jamais fait de course de sa vie sur la glace. Et je lui dis, écoute, mon chéri, là, tu vas être avec des grands professionnels. C'est ta première course, ne cherche pas à gagner. Vas-y doucement. Mais non, t'inquiète pas, maman. D'accord, bien sûr. Et en plus, je l'ai fait rater l'école en disant qu'il était malade. Maintenant, je peux l'avouer. Hein. Excusez-moi, monsieur les professeurs, mais c'était très très important qu'il fasse cette course, parce que de toute façon on pourra pas le savoir, mais malheureusement il a gagné, enfin malheureusement entre guillemets, il a réussi à doubler trois voitures sur glace, ce qui est rare pour une première fois, sans toucher la voiture, même pas égratigner, rien, mais j'en ai pleuré, mon ami en a pleuré, Jean-Pierre aussi fier, et puis ce qui était mignon de la part de mon fils, c'est qu'il fait « Maman, je comprends pas, je signe plein d'autographes, je ne suis rien, comment ça se fait ? Je sais même pas comment on fait une signature, tu fais un P et puis voilà, ça suffit mon chéri. » Donc très très fier de mon fils, très fier d'Olivier Pernaut aussi, qui fait beaucoup aussi dans toutes les courses différentes, de catégories différentes. Et moi, bien sûr, j'ai fait le trophée Andros aussi, où je me suis vraiment éclatée. Et j'ai fini deuxième d'ailleurs au trophée Andros, donc une grande fierté. Et là où mon fils a gagné, moi aussi j'avais gagné une coupe. Donc malheureusement, je n'ai pas pu l'accompagner. C'est ma meilleure amie qui a pu l'accompagner. Et c'est pour ça que j'ai pleuré aussi de grande fierté. Et il est sur le podium, où moi j'étais aussi sur le podium, c'est beau.
Et vous gagnez aussi à être connu, parce qu'il y a une chose très particulière. Avant même de connaître Jean-Pierre Pernaut, que vous ne connaissiez pas, vous étiez sur la même chaîne. Car vous avez tourné des sitcoms, Le miel et les abeilles, Salut les musclés...
À l'époque, c'était la grande mode. Oui. Je remercierai jamais assez Monsieur Jean-Luc Azoulay, parce que moi, j'avais jamais fait de cours de théâtre. Il m'a fait confiance, il m'a donné plein de guests dans Les filles d'à côté aussi, beaucoup avec Thierry Redler, que j'admirais énormément.
Les vacances de l'amour aussi.
Les vacances de l'amour, oui. Plein. Et c'était une magnifique expérience. Bon enfant, et Jean-Luc Azoulay, il a toujours eu le sens de faire des cartons, parce qu'on ne voyait, on voyait que Dorothée à l'époque.
Ben je sais, et surtout il écrivait ses scénarios sur le ventre, assis sur son bureau, couché sur le bureau, et il dictait les scénarios directement.
Exactement.
Et ça vous a aussi appris, Nathalie Marquet-Pernaut, à travailler vite.
Oui, parce que les sitcoms, c'est super important. On n'a pas le temps de perdre du temps, parce que c'est de l'argent perdu. Ça coûte cher. Donc une prise, deux prises, et hop, ça doit être la bonne. Hein.
Voilà.
On n'en a pas trois, hein. C'est pas comme au cinéma. Hein.
Non, et il y a eu aussi Sous le soleil.
Ah oui, et Sous le soleil, mon
Dieu.
7 ans. Oui, 7 ans, Sous le soleil, c'est aussi des souvenirs magnifiques. Et en plus, ça a été un hasard, parce que c'était après ma maladie. Donc j'étais de nouveau en France, et au démarrage je savais pas ce que j'avais envie de refaire, parce que j'avais quitté tout ce monde aussi des paillettes et tout ça. Donc je suis partie aux Antilles avec juste, j'ai tout abandonné, mon appartement, mon mec, tout. Je suis partie avec une valise et mon chien, avec un billet open, et je suis partie aux Antilles. Et puis il y a une fille qui me voyait sur la plage, dit mais vous voulez pas vendre des maillots de bain? Et je me suis dit, mais pourquoi pas? J'ai envie de m'éclater. Pourquoi pas? Je sais défiler. Et j'ai vendu des maillots de bain, et j'étais la bête noire de toutes les vendeuses, et je cartonnais. Et ensuite, j'ai été responsable de la marque de maillots de bain. Je ne sais pas si on a le droit de dire la marque.
Si,
à l'époque, Créolita. Voilà, parce que la télé, je sais qu'on n'a pas le droit.
Et si on peut, on parle vrai, parlons vrai.
Super, Créolita, c'est... Voilà. Et donc, j'ai monté la marque en Martinique, où après, j'étais responsable de la marque, où j'ai appris aux filles à défiler. Ensuite, j'ai organisé des défilés dans les hôtels pour défiler le maillot de bain, et après, pour vendre les maillots de bain au lendemain. Et ça a été une expérience extraordinaire et magnifique. Et ensuite, je suis tombée malade, une leucémie, donc il fallait que je rentre sur Paris. Donc j'étais à Villejuif, à Paris. Et après ma maladie, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne sais pas. Et j'ai eu la chance de rencontrer Pierre Cosseau. On a été ensemble pendant un an. Et lui, il me dit, mais tu voudrais pas faire un casting pour Sous le Soleil? Je fais, oh, tu sais, je sais pas si j'en suis capable et tout. Mais si, viens avec moi, passe le casting, t'as rien à perdre. Je fais, ouais, mais je sais pas si j'ai envie de retomber dans les paillettes. Mais si, viens, en plus, moi, en ce moment, je suis en tournage là-bas, c'est super sympa, c'est un Saint-Trope et tout. Je fais, bon, d'accord, j'ai rien
à
perdre.
C'est comme ça que c'est parti.
Je passe le casting et j'ai le rôle de Monica.
Ouais.
Et ça a été un plaisir de jouer auprès d'Adeline Blondiot, où j'étais sa secrétaire.
Et vous avez continué à jouer, et vous jouez encore, on en parle dans quelques instants, à travers une autre date, le 5 février 2020. A tout de suite sur Sud Radio avec Nathalie Marquet-Pernoud.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de Nathalie Marquet-Pernoud, 5 février 2020, il y a quelques jours à peine. Vous revoici à l'affiche à Paris, au Théâtre du Gymnase, que vous connaissez bien, avec Double Jeu, qui est une tragique comédie policière.
Comédie dramatique, voilà. C'est un petit Agatha Christie. Donc, je suis extrêmement heureuse de jouer dans cette pièce parce que c'est une pièce qui marche, qui fonctionne déjà très, très bien. Donc, l'histoire, c'est sept amis qui ne se sont pas revus depuis le lycée, 35 ans. C'est des super potes jusqu'au jour où un des potes décide de nous envoyer un mail à tous. Et donc, bien sûr, les sept personnages sont heureux de se retrouver et acceptent. Et pendant cette soirée, qui devait être merveilleuse, passe vraiment de l'agréable au pire cauchemar. Mensonge, trahison, meurtre, suicide, amour, argent, la totale. Et je suis accompagnée. Donc, c'est une écriture de Brigitte Massiot.
Oui, même. Qui avait déjà fait une pièce avec Pierre Douglas il y a quelques semaines. Oui.
Exactement, l'année dernière.
L'année dernière,
l'année
oui.
dernière qui a cartonné. Ils sont tout le temps en tournée d'ailleurs. Une mise en scène de Olivier Massé aussi, magnifique mise en scène. Et vraiment, Brigitte Massiot, c'est une écriture extraordinaire parce que c'est très difficile de faire une pièce avec sept personnages. C'est pas évident.
C'est un risque aujourd'hui même.
Un très grand risque, oui. Et en plus, les sept personnages, ont vraiment un rôle à défendre, qui est extraordinaire. Et on sent dans la salle l'ambiance qui monte. Mais alors, qui l'a tué? Et jusqu'à la fin, on tient le public en haleine et c'est extraordinaire. Et chaque fois, on entend la reconnaissance du public qui aux applaudissements, quoi. C'est énorme. Et puis là, ils ont beaucoup de rire aussi.
Oui.
Donc c'est rare de faire rire et vraiment un grand suspense.
Oui. À la manière d'Agatha Christie,
énorme.
Qui avait écrit Dipty Nègre. Et vous savez qu'aujourd'hui, oui. on ne peut plus intituler cette pièce Enfance Dipty Nègre.
J'imagine bien, oui.
C'est interdit.
Bien,
oui. C'est complètement fou, mais c'est comme ça.
C'est complètement idiot, surtout.
Alors, et parmi vos partenaires, il y a Olivia Dutronc,
oui.
qui est la belle-fille de Darry Cole, un comédien qui zozotait extraordinaire, qui avait été découvert aux Trois Baudets par Sacha Guitry. Qu'il était pianiste à l'époque et Guitry l'avait engagé pour son dernier film Assassin et voleur.
Ah.
Et Olivia donc a été élevée par Darry Cole et c'est l'une de vos partenaires.
Ah oui, et que j'aime énormément et qui joue extrêmement bien, d'une finesse. Elle est très drôle en même temps et dramatique. J'ai beaucoup appris sur elle aussi parce que c'est vrai que je suis accompagnée de six comédiens extraordinaires. Il y a aussi Juliette De Gennes, Charlotte Caddy. Il y a Philippe Roulier, Pierre Denis et Bernard Fructus.
Et comment vous êtes-vous retrouvée dans cette aventure, Nathalie Marquet-Pernoud?
Eh ben, c'est grâce au metteur en scène, Olivier Massé, qui m'a envoyé le scénario et qui me dit « Écoute, ça m'intéresserait de travailler avec toi, lis-le vite et dis-moi vite si tu acceptes. »
Parce que le théâtre, c'est une de vos passions. Je crois que vous avez pris plusieurs fois des cours d'art dramatique.
Oui, j'ai fait des stages, exactement. Oui, c'est important parce que c'est pas évident d'arriver comme ça sans avoir rien appris. Et après, c'est sur le terrain qu'on apprend beaucoup parce que moi, j'ai écrit deux autres pièces avec mon mari. Et Piège à Métignon et Régime présidentiel. Et c'était comique. Et jouer du comique, c'est ce qui est le plus difficile. Donc là, j'ai extrêmement bien appris et maintenant, oui, être sur scène, c'est ma grande passion. C'est ce qui est génial, c'est d'avoir le public en face parce qu'on a tout de suite, la réaction.
Ouais.
Donc c'est bien, on n'a pas de filet.
Mais là, c'est venu comment, cette passion du théâtre? C'était depuis toujours ou c'est venu ensuite?
Non, c'est venu ensuite parce que moi, je ne pensais pas être capable de faire ça. Et pour tout vous dire, c'était un voyant très connu, un voyant très connu sur Paris. Que j'avais rencontré lors d'une émission de Sébastien Coé. Et Koé, il sait que j'aimais bien la voyance et tout ça, donc il voulait me faire une surprise. Et donc il me l'a présenté. Et il vient sur le plateau et il me dit, toi, dans 2 ans, tu feras du théâtre. Je le regarde, je fais, mais qu'est-ce que c'est pour vous comme voyant? Il dit, raconte n'importe quoi. Moi, faire du théâtre, oh non, il faut avoir la mémoire, ça me faisait peur, autant de mémoire, parce que faire des téléfilms, c'est facile, mais théâtre, pas évident. Et puis, il faut avoir la voix, il faut la travailler, la voix. Je n'ai jamais fait de cours de voix. Et puis, ben, il a eu raison.
Alors finalement, vous retrouvez le théâtre du gymnase, oui. Parce que c'est là où vous aviez créé Piège à Matignon, écrite avec Jean-Pierre Pernaut, avec la complicité d'un autre auteur,
Jean-Claude Isler.
Et ça aussi, c'était une aventure, parce que faire du théâtre, c'est bien, écrire, jouer et mettre en scène, car vous avez mis en scène aussi après la pièce en tournée, c'est encore un autre métier.
Ah bah c'est très difficile là, c'est parce qu'on est toujours en grand stress, on a envie que les rires viennent au moment où on veut, mais en même temps c'est jouissif, parce que quand on entend les rires là où on a voulu le faire et qu'on les entend rire, on dit ça y est, notre bébé grandit là, c'est génial, ça marche, waouh, je savais pas qu'on pouvait avoir du talent, moi et Jean-Pierre, pour l'écriture. Et ça fonctionne parce que on a fait 6 ans de tournée, ce qui est énorme pour une pièce. Donc après on a voulu écrire une deuxième. Et là, on l'a joué pendant 2 ans.
Voilà. Et Philippe Risoli, d'ailleurs, a été un de vos partenaires.
Ah oui, mon petit chouchou d'amour que j'aime. Et il me manque beaucoup. Hein, ça. Bah, lui aussi, il a commencé une nouvelle pièce, d'ailleurs. Et on a hâte de se retrouver sur scène tous les deux. Plus tard, hein, pas pour l'instant. Mais oui, on a une énorme complicité. Et c'est un grand, grand bosseur professionnel. Et qui a joué extrêmement bien, et les crises de fou rire qu'on a eues ensemble, c'est gravé pour toujours.
Alors, il se trouve que vous retrouvez le théâtre du gymnase, puisque vous avez débuté au gymnase avec Piège à Matignon. Vous aviez joué, je crois, avec Ali Vardar
avant.
Au théâtre de la Grande Comédie.
Exactement.
Pendant 6 mois.
Oui, un couple parfait, enfin presque.
Voilà. Ça, c'est une première expérience.
Bah, grâce à Ali, il a osé me mettre sur scène, au théâtre. C'est la première fois, donc il a osé. Parce que j'avais jamais fait de théâtre, ça aurait pu être compliqué pour lui. Et surtout qu'on n'était que 2 sur scène. Donc là, j'ai pris mes armes avec lui. Et ensuite, oui, là, au théâtre du gymnase, là, c'était encore autre chose. Et...
Où a débuté un couple célèbre, Alain Delon et Romy Schneider,
Schneider, mon actrice préférée.
Oui, elle a débuté au gymnase avec Alain Delon en 61, dans Dommage qu'elle soit une paix, mise en scène par Visconti. On disait pas putain à l'époque. Et ils n'avaient jamais fait de théâtre, ils avaient aussi peur l'un que l'autre en entrant sur scène le soir de la première.
C'est trop chou.
C'est fou, hein.
Ah ouais, c'est
sur cette
chou.
Scène où vous êtes aujourd'hui.
Ah ouais, c'est marrant. Surtout que ça me touche, parce que Romy Schneider, je vous dis, c'est celle que j'admire énormément, c'est ma préférée.
Et puis il y a eu un peu de cinéma aussi, vous avez fait quelques petits rôles au cinéma. Il y a eu Red Eagle.
Ah oui, il y a longtemps.
Avec Timothy Dalton.
Oui.
Ça, c'était
un tout petit rôle, hein, tout petit. Mais oui, quelle rencontre. Bon, ça a été très court, hein. Je me souviens plus, j'ai dû dire que 2 phrases.
Oui, mais quand même, c'est Timothy Dalton.
Oui, c'est ça. Mais extrêmement gentil et très, très avenant. Oui, c'est un excellent souvenir, mais voilà, c'est trop court.
C'est trop court. Et vous avez fait au sujet des choses courtes, il y a des spots publicitaires, beaucoup.
Ah oui. Il y a eu Amora, pour des parfums, pour des produits.
Beaucoup de choses. Mais surtout, vous avez fait aussi beaucoup de télévision, notamment La Ferme Célébrité, et à chaque fois pour des œuvres qui vous tiennent à cœur. Ça, c'est important pour vous.
Ah ben, les associations, pour moi, c'est primordial. J'ai besoin de me donner pour eux. Là, maintenant, je n'ai pas d'association attitrée, parce que je veux être disponible pour plusieurs associations. Parce qu'ils ont tellement besoin de nous, par exemple pour l'association Juste Humain, où c'est pour la maladie des enfants, mais pas que sur le cancer. Après, je suis présente aussi quand Sylvie Tellier m'appelle pour les Bonnes Fées. Ce qui est très bien, c'est qu'elle fait plein d'associations aussi complètement différentes. Et puis, de temps en temps, ça m'arrive aussi de faire les Maraudes et, sur Paris. Et c'est extrêmement important. Vous vous rendez compte, je suis tombée sur une jeune fille... qui était sur le trottoir, magnifique. Et donc, je descends de ma voiture, je vais pour lui donner de la soupe, sandwich, une brosse à dents, dentifrice. Et là, elle me dit, tu n'aurais pas un Tampax. Vous rendez compte, elle devait avoir quoi, 17, 18 ans. Ça m'a fait mal au cœur. Et heureusement que oui, j'avais des serviettes hygiéniques et tout ça, je lui ai donné. Et voilà, il y a plein de gens qui se plaignent, mais il faudrait qu'ils aillent Excusez-moi, je suis un peu émue parce que c'est tellement triste ces images, d'aller voir ces pauvres gens qui n'ont rien, qui sont dans la rue. Et c'est vraiment en 2020, comment est-ce possible quoi, de pouvoir vivre voilà, sans rien avoir, alors que c'est des gens aussi, bien sûr tout le monde dit bon, ils n'ont qu'à aller travailler, ben non, ben, c'est des gens qui ont travaillé et qui n'ont plus assez d'argent, qui sont obligés de faire les poubelles et qui sont dehors et qui dorment dehors et qui ont des enfants, c'est terrible. Donc oui, ça me tient vraiment à cœur, c'est super important.
Et de plus en plus, vous allez vous impliquer dans des aventures comme ça, en continuant à faire du théâtre, de la télévision aussi en permanence, parce que vous faites tout en même temps.
Oui, mais j'aime bien, moi j'ai besoin de ça, hein. Je suis peut-être un petit peu hyperactive peut-être, mais j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de me rendre utile, et puis c'est un grand bonheur pour moi.
Et votre premier fan reste Jean-Pierre Pernaut.
Oui, j'espère bien.
Il est venu au théâtre, il a vu la pièce, il vous a donné des conseils.
Alors, ce qui est marrant, c'est que je ne lui ai absolument... Enfin, il savait que j'allais jouer double jeu, mais je ne lui ai rien dit de ce qu'il allait se passer. Il ne savait pas. Donc, il est venu pour la première et il a adoré. Il est resté scotché. Il m'a dit, waouh. Il m'a dit, mais c'est énorme, elle est magnifique cette pièce, quelle belle écriture. Et vous êtes tous les sept, superbes. Il n'y en a pas un qui a un premier rôle. Et puis, voilà. Mais ce qui est marrant aussi, c'est qu'il a encore, quand il est assis sur son fauteuil, il a plus peur que moi. Il tremble, mais vraiment. J'ai des amis qui étaient à côté, ils me disent, mais ton mari, j'ai cru qu'on allait le ramasser à la petite cuillère, parce qu'avant que tu dis ta première phrase, il était tétanisé. Mais c'est mignon. Hein.
C'est très mignon. Et surtout, le public aussi applaudit. Alors, je précise que c'est du mercredi au samedi à 19h, le dimanche à 16h au gymnase. Ça s'appelle Double Jeu. Et j'incite celles et ceux qui nous écoutent, ils sont nombreux, à venir vous voir, Nathalie Marquet-Pernaut.
C'est très gentil. Merci infiniment.
Merci d'avoir participé à ces clés d'une vie.
Un grand plaisir.
Et réciproquement, dans quelques instants, on va retrouver Brigitte Lahaie. Et nous, on se retrouve bien sûr demain pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée. Merci. À demain.